observation.
Bonjour, les étiquettes sont à l'envers, on va les remettre. Merci. C'était un test aussi. Bienvenue à cette rencontre transatlantique au cours de laquelle nous allons parler d'un vaste sujet, c'est l'humour américain et comment traduire l'humour américain. J'ai avec moi deux auteurs traducteurs, Nicolas Richard et Steven Thompson. Merci beaucoup à tous les deux d'être ici pour parler de cette question. Je vais vous présenter d'abord chacun. Nicolas Richard, on a mis votre étiquette au bon endroit. Vous êtes la personne la plus éloignée de moi. Vous êtes traducteur de l'anglais et puis vous êtes aussi vous-même écrivain, membre du collectif Un Culte qui publie d'ailleurs Un Culte aussi des textes très audacieux et des traductions formidables. Il y a eu Alan Moore, il y a eu Blake Butler l'année dernière qui m'a sidérée. Vous avez publié aux éditions Un Culte Sonic avec Kid Loco en 2009 et puis l'an dernier La Dissipation, roman d'espionnage mais qui en fait est un roman consacré plutôt à Thomas Pynchon. Il ne faut pas se fier au titre, mais sans le citer. Voilà, vous m'avez expliqué tout à l'heure. Et vous êtes le traducteur alors de très grands noms de la littérature américaine. J'en cite quelques-uns, Thomas Pynchon, Richard Powers, Hunter S. Thompson, Philip K. Dick, Harry Cruz, Woody Allen, Patti Smith et bien d'autres. Et en 2013, vous avez reçu le prix Maurice Edgar Coindreau de la Société des gens de lettres pour votre traduction de Ridley Walker ou Enig Marcher en français de Russell Hoban aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Voilà pour la présentation. Et puis, Steven Thompson, vous êtes écrivain et critique littéraire et vous êtes, comme l'indique la quatrième de couverture de Moi, Philippe Roth, un Américain à Paris, vous habitez en France. Vous avez fait des études de littérature anglo-américaine à Harvard et de journalisme à Columbia. Et vous avez travaillé 10 ans dans l'édition à New York avant de venir à Paris où vous avez fait votre thèse sur Philippe Roth. Alors moi je prends le parti de dire Philippe Roth parce que si je commence à prononcer avec l'accent on va pas s'en sortir, je suis pas très bonne. Et vous avez publié cette thèse à Paris 7 et vous avez publié 3 essais, en fait Corpus Roti qui est un essai en deux volumes plutôt, et puis Côte Est, Côte Ouest qui est aussi un essai sur la littérature américaine qui traite différents auteurs, et un roman, Moi, Philippe Roth, que j'ai apporté avec moi. Voilà. Et donc vous allez nous lire un extrait, mais d'abord je voudrais mentionner aussi que vous collaborez avec plusieurs revues, et notamment Le Monde, L'Arche, et en attendant Nado, la revue en ligne dont vous êtes membre du comité de rédaction. Voilà pour les présentations. Comme je le disais, on va commencer, pour se mettre dans le bain de l'humour américain, par une lecture que vous allez chacun faire. C'est vous qui avez choisi votre lecture. Je vous laisse présenter Nicolas Richard.
Bonjour.
Et s'il y a de moindres problèmes de son, vous protestez et on ajustera.
Je propose de commencer par la lecture du premier chapitre d'un roman absolument épatant qui date de 1974, qui s'appelle Fan Man en anglais. Et en français, il a eu 2 titres, parce qu'il a eu 2 éditions. Et donc la dernière édition, là, aux éditions Kambouraki, c'est Fan Man, l'homme au ventilo. Voilà, c'est l'histoire d'un type. Alors que c'est une sorte de pastiche de roman hippie. Et plus qu'un long discours, voilà, je vous lis la première page, que vous entendiez de quoi on parle. Le héros s'appelle Horse Bad Ortiz. Voilà, c'est le seul nom un peu bizarre que vous entendrez, Horse Bad Ortiz. Alors, donc le chapitre 1 s'intitule « La turne numéro 1 de Horse Bad Ortiz ». Je suis tout seul dans ma turne, mec. Ma turne avec des détritus jusqu'au plafond. Des partitions empilées, des tas de sacs poubelles bourrés d'ordures et par terre, des poils à frire tout encroûtés, incrustés de mouchetures, de saloperies putréfiées dans la graisse. Ma turne à moi, mec. Ma petite turne à moi de Horse Bad Ortiz dans le Lower East Side. Je viens juste de me réveiller, mec. Horse Bad Ortiz vient juste de se réveiller et se traîne dans l'abominable mer de crasse, mec, qu'il appelle son chez-soi. Traverser des pièces de ma turne, mec. Entre le verre pilé et les tas de fringues cradingues parmi lesquelles je vais choisir ma garde-robe du jour. Tiens, fourré dans une poubelle, un futal salingue incroyablement froissé. Et là, mec, sous un tas de journaux mouillés, une chemise, mec, avec une manche. Tout ce qu'il me faut maintenant, mec, c'est une cravate. Et justement, voilà un serpent japonais, un jouet en caoutchouc en parfait état, mec, dont je peux facilement faire un nœud à peu près correct qui ressemble à une boule de spaghetti ratatinée. Spaghetti, mec ! Maintenant, ça me revient. C'est pour ça que je me suis levé de la fosse septique qui me sert de paddock, mec, à cause des grondements de mon bide. C'est l'heure du petit déjeuner, mec. Mais d'abord, je dois passer un coup de fil en Alaska.
Merci, mec. Steven Samson, un extrait de Moi, Philippe Roth.
Oui, juste pour situer, donc, c'est l'histoire d'un juif américain à Paris qui fait une thèse sur Philippe Roth à la Sorbonne et en même temps, il enseigne un cours à la Sorbonne sur un roman de Philippe Roth qui s'appelle La leçon d'anatomie. Est-ce que tout le monde sait qui c'est Philippe Roth ou pas? Et donc il fait un truc qui n'est pas très politiquement correct, à savoir qu'il sort avec une de ses étudiantes. Bon, c'est vrai, le semestre est terminé, donc elle n'est plus son étudiante, mais bref, ils vivent ensemble. Et là, il est invité pour la première fois à déjeuner chez ses parents pour rencontrer les parents. Et donc, c'est le passage que Élise a choisi, mais que je trouve très bien. Aussi, je m'excuse d'avance, mais mon accent est plus lourd quand je lis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est je n'arrive pas à lire sans vraiment... J'ai du mal à prononcer, même quand c'est moi qui écris les mots. Voilà. Donc, Marie de Blanzy avait préparé une blanquette de veau. Madame de Blanzy avait préparé une blanquette... Oui, et donc, la héroïne, sa fiancée, elle s'appelle Marie de Blanzy, et lui, s'appelle Jesse Y. Voilà. Marie de Blanzy avait préparé une blanquette de veau, la viande trempée dans une sauce copieuse. Pendant que je la déterrais, son mari me martelait des questions. « Êtes-vous docteur ?»« Bientôt. » Il a fait une pause pour couper son veau et en tremper un morceau dans la sauce. Puis il a mis dans sa bouche avec sa fourchette, laissant quelques gouttes claires sur les dents de l'utensile. « Généraliste ?»« Exact. » À l'hôpital ?» Marie a éclaté de rire. Jesse sera docteur S. Lettres. Monsieur de Blanzy avait l'air perplexe. Mais il enseigne l'anatomie. La leçon d'anatomie, papa. Un manuel d'anatomie? C'est le roman d'un Américain, Philippe Roth. Jesse s'occupe du verbe, pas du corps. Où ça? À la Sorbonne. L'anatomie américaine à la Sorbonne? Ils ont les mêmes corps que nous, non? Qu'ont-ils? 6 doigts et 6 orteils? Il regardait sa fille. Ils ont des cornes, des implantes. Apparemment adepte à l'humour paternel, elle a ri. J'ai remarqué comment il avait ainsi introduit insidieusement dans la conversation le thème du rapport de sa fille au corps américain. Pas l'anatomie, papa, la culture. Parce qu'ils en ont une, elle consiste en quoi? La souris, comment s'appelle-t-il déjà? Mickey Mouse. Papa, ton père a raison, Marie. Aux États-Unis, on peut effectivement poursuivre un doctorat en études Disney. Ici, les gens sont prisonniers d'une vision restrictive de la culture. Monsieur de Blanzy me regardait fixement. Tout dépend de la portée de ce terme. Monsieur, je vous signale qu'il y a plus de visiteurs à Disneyland Paris qu'au Louvre. Louis XIV et Napoléon n'intéressent plus personne. Ce qui importe aujourd'hui, ce sont les secousses et les attractions. Donc oui, j'enseigne la culture américaine et j'en suis fier. Marie, où as-tu trouvé ce crétin? Énervé, il avait employé sa langue. Papa! Elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il a eu l'air gêné. Cet accrochage fut suivi par le second avènement de la blanquette. Coincé entre des tiges d'asperges qui l'empêchaient de tomber, la viande nageait toujours dans une épaisse couche de sauce crémeuse. Il faut croire que le deuxième service lui avait apporté un nouveau souffle. Jeune homme, croyez-vous en Dieu? Enfant, oui. Et maintenant, que s'est-il passé? Il y a eu un malentendu. Ma fille, vous savez, a-t-il commencé, puis, se tournant vers Marie, il a pris une longue respiration pour peser ses mots. Elle est pieuse. J'ai mis ma main sous la table et lui ai caressé la jambe. Dites-moi, comment avez-vous trouvé la messe? Heavy. C'est un peu méprisant, non? Son visage déconfit m'a fait comprendre qu'il ne connaissait pas l'argot américain des années 60, celui de « He's not heavy, he's my brother ». Il n'a pas entendu « transcendant », mais plutôt le sens premier de « lourd » ou « pesant », voire « ennuyeux ». Marie ne venait pas à mon secours. Ses paupières battaient comme de petits oiseaux, produisant des larmes d'une limpidité troublante. Après un silence pénible, j'ai essayé de m'expliquer. Ensuite, notre échange a repris son cours. « Avez-vous la foi ?»« Je crois en moi-même. »« Pardon ? Je suis circoncis. » Et juste pour la petite anecdote, j'étais plus tôt dans cette semaine à Nancy pour un colloque organisé à l'Université de Lorraine sur Disney.
Ben voilà. Merci beaucoup pour ces deux lectures. Et donc, comme on le pressent, hein, en écoutant ces textes, nous allons parler d'ironie, d'absurde, d'humour juif aussi, peut-être de ruralité et d'urbanité, et de traduction, de virilité aussi et de sexualité. Mais j'aimerais d'abord, pour vous tester un peu, savoir qu'est-ce que vous avez par rapport à nous apporter sur ce débat. Quelle est votre définition de l'humour américain ? Est-ce que vous en auriez une ? C'est pas facile. Stephen Sampson ou Nicolas Richard, celui qui veut répondre en premier.
Il marche celui-là, oui. L'humour américain, c'est ce qui est écrit en américain et qui me fait sourire. C'est Mike Tyson, quand on lui demande quel va être votre héritage, qu'est-ce que vous pensez laisser, qu'est-ce qu'il va y avoir après vous, et il dit I'm afraid I'm gonna fall in Bolivian. Un petit jeu de mots sur Olivier. Je vais tomber dans l'oubli, mais lui, il tombe dans le bolivien. Voilà, ça me fait s'ouvrir.
Merci pour cette définition. Stephen Sampson.
Moi, je suis un peu gêné parce que les Français, je trouve, ils ont une culture générale beaucoup supérieure à la nôtre. Et lorsqu'on demande en français qu'est-ce que c'est l'humour, souvent, ils commencent avec Freud et son essai sur l'humour que je n'ai pas lu et je n'ai pas vraiment compris. Donc, je peux donner un truc un peu plus pragmatique comme Nicolas. Mais déjà, est-ce que l'humour américain est différent par rapport à l'humour français en général? Moi, je trouve les Américains moins drôles. Globalement, moi, je dirais plutôt qu'il y a l'humour du corps et ça transcende les pays. Et puis, il y a l'humour par rapport à la religion, il y a les accents. Est-ce qu'il y a un humour juif américain qui est assez spécifique aux juifs? Je pense qu'il y a un humour black américain aussi. Mais l'humour américain en général, je ne sais pas. Moi, je me suis jamais senti trop américain d'ailleurs.
Alors là, on rentre dans la psychanalyse. Je ne sais pas si on va aborder ces questions-là en profondeur. En tout cas, vous écrivez en français, Stephen Sampson. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Est-ce que vous vous auto-traduisez quand vous écrivez en français ? Et est-ce que ça vous permet soit d'exprimer plus de choses, soit au contraire, est-ce que vous vous censurez en vous disant « non, je ne peux pas écrire ça ».
Je pense qu'on se sent plus libre dans une langue étrangère que dans sa propre langue. Et vous avez dit que je suis traducteur, c'est gentil, mais la seule chose que j'ai traduite, c'est ce roman-là que j'ai traduit en anglais. Maintenant, je cherche un éditeur aux États-Unis, mais sinon, je ne suis pas traducteur. Et d'ailleurs, j'aime mon roman moins en anglais qu'en français.
Donc, en fait, vous avez écrit en français et vous avez ensuite traduit en anglais pour être publié aux États-Unis.
Oui, c'est ça.
Bon. Nicolas et Richard, j'aimerais vous poser la question d'abord sur l'humour américain du tri ou de l'adaptation, puisque c'est ce qui a été écrit dans le résumé de cette rencontre. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui passe par-dessus bord ? J'imagine qu'il y a un gros travail de traducteur à faire quand on découvre un texte, qui est de savoir qu'est-ce qui va parler à un public français et qu'est-ce qui ne va pas, soit va être ne pas être drôle, soit ne pas être compris.
En fait, j'ai des cas de figure précis qui me viennent à l'esprit, mais c'est vrai que c'est incontestable qu'il y a des références précises on a vu ça ce matin quand on parlait de David Sedaris en atelier. Il y a des références précises où on se dit que ça va parler à des Américains et ça va parler beaucoup moins à des Français, et donc toute la dynamique du comique va s'effondrer. Et après, il y a vraiment on a vu ça ce matin, il y a vraiment presque des positions dogmatiques. Est-ce que je change la référence pour faire rire, ou est-ce que je maintiens la référence ? Comment je me rattrape aux branches pour essayer de maintenir quelque chose ? Moi, pour le coup, entre le Kotzwinkel que j'ai lu et puis, par exemple, Richard Brautigan, que je trouve vraiment très amusant aussi par moments, en plus d'être sensible, c'est des stratégies de traduction différentes. Et à l'arrivée, il me semble qu'il y a quand même de la littérature et que les auteurs n'essayent pas spécialement... Ce n'est pas des comiques, ce n'est pas du stand-up. Mmh. Et qu'on peut être sensible à une forme de littérature sans pour autant essayer de faire rire autant que dans la VO.
Donc en fait, on peut parfois renoncer à certaines plaisanteries tout simplement en les présentant comme du premier degré, si je comprends bien.
Ou alors, il y a des véritables difficultés de traduction. Là, je pense à un passage du dernier roman de Pynchon. Mm-hmm. À un moment donné, il dit en anglais, « As the Godfather always says, one can only hope. » Hein, les cannoli, one can only hope, et on entend, on ne peut qu'espérer, one can only hope. Et là, c'est vraiment problématique. Là, on a un cas précis d'une phrase. Et du coup, je suis quand même allé regarder, je suis tombé sur la version anglaise, donc je suis allé regarder ce que j'avais fait en français. J'en suis pas très fier, mais en fait, je l'ai carrément laissé en anglais, en italique, en me disant, bah tant pis.
Et là, on fait quoi ? Une petite note du traducteur avec la version française, ou on laisse comme ça
Alors, après, ça dépend de quel livre on parle. Quand c'est Thomas Pynchon, je ne mets pas de notes. Et je suppose que s'il y a de la curiosité, il y a déjà tellement d'embûches pour le lecteur que c'est un jeu. C'est très facile d'aller chercher un tout petit peu et puis de trouver. Mais je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante et je ne voulais pas franciser. Je n'ai pas trouvé.
Vous avez pas eu ce problème dans l'adaptation, l'auto-traduction du français vers l'anglais, si ?
C'est un problème parce que ça joue sur le bilinguisme. Donc, par exemple, il sort avec deux femmes dans ce roman. La première moitié, c'est Marie. La deuxième moitié, c'est Elizabeth. Et avec Marie, il se parle en anglais, sauf que c'est transmis en français dans le roman. Mais donc, quand même, l'anglais paraît parfois. Et puis, il parle en français avec l'autre. Mais quand tu traduis dans l'autre langue, en plus, à la limite, c'est plus facile pour un lecteur français. Parce que le lecteur français, quand même, il est plus ou moins bilingue, il comprend l'anglais, mais le lecteur américain, tu pars du principe qu'il ne comprend pas le français.
Mais ça, c'est encore une différence culturelle aussi.
Oui,
hein.
Exactement. Oui.
Nicolas, Richard, tout à l'heure, Stephen Thompson disait que l'humour américain, c'est aussi un humour qui est de communauté, de circonstances. Vous avez traduit différents auteurs, par exemple Paul Betty, qui est afro-américain, qui parle de cette communauté afro-américaine, mais vous avez traduit, je l'ai ici, Woody Allen, qui lui a cet humour juif dont on va parler aussi. Hein. Et vous avez traduit d'autres auteurs qui... En fait, je me demandais, en préparant cette rencontre, si l'humour américain n'était pas aussi tout simplement un humour de communauté. Est-ce que vous êtes d'accord et qu'est-ce que vous pensez de ça? Et dans ce cas, comment vous adaptez vos traductions aux communautés?
Alors, pour ce qui est de Paul Betty, le passage que je lirai tout à l'heure, qui est l'ouverture du livre, il conteste tout à fait cette idée, lui. Hein. Et puis ce qu'il dit, cette idée du black cool, etc., c'est totalement fini. On va pouvoir enfin être tranquille, qu'on arrête de nous emmerder. Donc, il s'oppose tout à fait à ça. Oui, mais après, lui, il est très ennuyé parce qu'en fait, il y a une sorte d'assignation automatique et qui est pénible, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est quand on voit les tables rondes dans les festivals où il y a trois auteurs noirs, c'est embarrassant et puis c'est pas fructueux. Et donc, du coup, et inversement, si on déborde un peu de la littérature et qu'on s'intéresse au stand-up ou on glisse à la musique ou à la culture radio, on peut... Sans que les contours soient très précis, on peut quand même trouver effectivement des points communs à des communautés.
Donc finalement, l'écueil, ce serait de faire justement d'enfermer des auteurs dans une communauté par méconnaissance ou par fermeture d'esprit. Là, il y a un défi.
Je ne sais pas si c'est fermeture d'esprit. Je crois que c'est pratique. Mais c'est pratique de dire Woody Allen, on entend ça depuis 50 ans, humour juif new-yorkais. Ouais. Off, on a collé l'étiquette. Ça n'empêche pas d'en faire une lecture après, une lecture différente, en tout cas qui s'arrête pas au cliché. Pour moi, c'est presque une convention de librairie, presque, ou en tout cas d'éditeur, qui recouvre quelque chose, mais qui doit être un petit peu titillé. Quoi.
Donc il faut être capable, en tant que traducteur, de trouver le juste milieu entre le fait de connaître le sujet dont parle l'auteur, puisqu'il y a quand même, je ne sais pas, pour les Afro-Américains, pour l'humour juif new-yorkais, etc., à chaque fois, on est quand même dans un tronc commun de référence. Donc de les connaître, mais en même temps, de ne pas se laisser enfermer, tout en se mettant dans la tête du lecteur français qui, lui, n'a pas ces bases-là, qui ne sont pas les siennes. C'est un exercice d'équilibriste.
Oui, je ne suis pas trop pour me mettre trop dans la tête du lecteur français. C'est-à-dire que je me mets dans ma tête... Et
qui est,
j'essaie
vous êtes
de comprendre...
d'ailleurs un lecteur français aussi.
Non, pas du tout, mais j'essaie de comprendre ce qu'a voulu dire. Non, je suis dans ma tête, dans le sens où je vais aussi plonger dans la tête de l'auteur et j'apprécie au maximum ce qu'il fait. Là, du coup, je ne parle pas que d'humour, mais de littérature. Et puis après, j'essaie de livrer une œuvre française littéraire qui soit comparable, qui ait un impact à peu près similaire à ce que j'ai pu lire en anglais. Mais je ne vais pas mettre... trop non plus à vouloir à imaginer, à fantasmer un lecteur moyen qui ne comprendrait pas. Et voilà, donc c'est un peu la limite aussi.
C'est intéressant ce que vous disiez sur l'impact, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un ressenti à la lecture du texte anglais et votre travail de traducteur va consister à provoquer ce même ressenti à la lecture du texte français, si je comprends bien. Ce serait un peu la seule
c'est
règle.
C'est possible, oui.
Ouais. Stephen Sompson, sur cette question des communautés, bien évidemment, c'est l'humour juif qui habite votre œuvre et vos préoccupations littéraires et votre propre
identité.
Je ne sais pas, quel est votre point de vue sur cette question de communauté d'humour, si je puis dire?
Oui, je ne sais pas, c'est compliqué, je suis assez d'accord avec ce que Nicolas dit. En même temps, je ne sais pas trop, j'ai dit que mon héros, il est juif américain. Parfois, les gens me demandent la trame de roman. Si j'identifie mon héros comme américain, ça ne correspond pas exactement à ce qu'il est. Donc, après, d'être obligé de définir, j'ai du mal. Mais oui, et les Juifs américains, ça joue non seulement dans ce qu'il ressent lui, mais en comment il est perçu. Moi, je trouve que souvent à Paris, les gens me disent tout de suite, mais tu es New-Yorkais, vous êtes New-Yorkais. Alors, quand même, ils voient quelque chose... tout de suite, avec tout ce que parfois c'est négatif, parfois c'est positif, mais les gens me voient, moi, avec, je ne sais pas si c'est les lunettes ou avant, il y a 20 ans, 25 ans, quand j'habitais toujours à New York, souvent les gens me regardaient comme ça, ils riaient, ils disaient « ha, ha, ha », et souvent c'était des Européens, des Français, des Italiens, et je dis « oui, je sais, je ressemble à Woody Allen, c'est ça », ils disaient « oui, c'est ça », et c'était des Européens qui avaient ce recul et qui me voyaient comme Woody Allen plus souvent que les autres, peut-être ma tête était plus surprenante pour eux, donc... Oui, un truc là, mais c'est à la fois défini de l'intérieur et de l'extérieur aussi. C'est un peu sartrien, si on veut. Mais
il y a quand même une crispation ou un agacement, en fait, à ces histoires d'étiquettes ou de communautés. C'est-à-dire, OK, juif américain, c'est bien gentil. Mais enfin, il ne faudrait pas non plus nous enfermer dans ces questions-là, finalement. C'est pas...
Oui, et puis je ne sais pas si même ça veut dire quelque chose aujourd'hui d'être juif. Je trouve qu'il en reste très peu. Moi, quand j'ai fait une thèse sur Philip Roth, c'était... À part de l'idée du vide, où Roth se sentait très juif, mais en même temps, il ne restait plus rien de cette identité parce qu'il ne parlait pas les langues juives, il ne connaissait presque rien de son héritage. Donc, c'était un carcan de vide, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une volonté de se réapproprier une identité par le biais de cette littérature imprégnée d'humour, de remplir un vide, peut-être, face à la perte du yiddish.
En faisant quoi?
En utilisant cet humour juif, entre
non, guillemets. Si l'humour est juif, et ce n'est pas à moi de le dire, non, c'est naturel pour moi. La judité passe par les langues étrangères, ouais. si tu veux. Moi, j'avais un rejet de la langue américaine. Pour moi, la langue française est une langue juive un peu. Moi, le country club de mes parents, où j'allais à Milwaukee quand j'étais enfant, toutes les affiches étaient françaises. Donc, j'ai une hypothèse, et c'est que les Juifs aux États-Unis se sentent un peu minoritaires ou pas respectés par l'establishment, qui était d'origine anglo-saxonne, anglaise. Ils se sont identifiés à la culture française, parce que quand moi, j'étais enfant, il y avait deux grandes civilisations occidentales. La civilisation française, on n'en parle plus de ça aujourd'hui, et la civilisation anglaise. Et donc, les Juifs s'identifient à cette civilisation française. Je vois ça toujours chez la communauté afro-américaine, parce que beaucoup d'afro-américains, tu vois ça dans le domaine des sports, ils ont des prénoms à consonance française, comme totalement farfelus, inventés, qui n'existent pas en France, mais qui font français. Donc j'ai l'hypothèse, encore une fois, que les afro-américains, comme les juifs, s'identifient à cette langue et cette culture par opposition à l'establishment anglais. Donc moi, je me suis mis à prendre yiddish. Je connais Nadia et Gilles depuis longtemps, même si je suis à des années-lumière de leur niveau. Et ma mère a dit alors, « We've struggled two generations to forget Yiddish, and you're struggling to remember it. » Donc, j'ai traduit ou pas, c'est pas la peine. Donc, on s'est acharné pendant deux générations pour oublier l'Yiddish, et toi, tu t'acharnes à t'en souvenir. Donc, oui, peut-être il y avait une volonté chez moi de remplir ce vide avec quelque chose.
Et ce qui est intéressant, c'est aussi quand on réfléchit à l'humour américain, c'est de se dire, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas complètement en train d'enfermer c'est un truc qui est impossible à définir. Je pense, Nicolas Richard, à ce que vous traduisez, c'est-à-dire qu'on va de Harry Cruz et de à Woody Allen, à Paul Beatty, à James Crumley, par exemple, l'école du Montana, Harry Cruz avec les rednecks, pour employer un mot qui n'est pas très gentil. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une identité très forte à une autre identité, ce qui est aussi l'essence peut-être des États-Unis, et ce qui montre à quel point c'est compliqué de réduire finalement la question de l'humour américain à une définition.
Oui, je ne sais même pas si je saurais dire le rapport qu'il peut y avoir entre le grotesque sudiste d'un Harry Cruz et puis, je ne sais pas, même un humour californien des années 60-70 à base de dope, par exemple, ce registre-là en général. Là pour le coup, faudrait comparer l'Amérique à l'Europe, mais c'est vraiment où la côte est par rapport aux Square States, aux États du milieu.
Ou même comparer l'Amérique à l'Amérique. Hein.
Et donc voilà, par exemple, l'humour d'un Harry Cruz joue pas du tout sur le... Il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de blague. Il y a juste peut-être une façon truculente de rapporter les dialogues de manière orale, assez phonétique. Et puis ce sont des situations qui sont aberrantes. Donc le comique naît de la situation. Paradoxalement, les nouvelles de Woody Allen, qui sont pratiquement des mini-scénarios, en fait, sont un peu émaillées de yiddish, mais encore, à mon avis, c'est du yiddish, c'est du maquillage. En revanche, le comique de la situation naît de la situation, une fois de plus.
Juste, je voulais rajouter quelque chose à ça. Trump, qui... Les Juifs votent majoritairement contre Trump, les Juifs américains, mais Trump, pour moi, je les déteste, hein, je précise, hein, mais il a... Il a un humour, peut-être il faudrait plutôt parler d'un humour new-yorkais, parce que Trump, il a un humour juif pour moi. Moi, quand j'entends Trump parler, et je déteste, hein, mais je le trouve souvent très drôle. Et c'est un humour new-yorkais, c'est même un humour juif. C'est ça qui est compliqué, c'est troublant même.
Ce qui est vraiment très drôle avec Trump, c'est le prochain épisode qui s'appelle « The Impeachment ».
C'est vrai que ça met le sourire sur nos visages. Stephen Sampson, au sujet de la côte ouest, New York, Los Angeles, hein, pour résumer à deux villes, vous écrivez quelque chose de très intéressant au début de votre essai côte ouest. Vous écrivez que pour les romanciers américains nés dans les années 60 et 70, les côtes sont plus attirantes qu'une Amérique profonde, perçue comme vide et arriérée. Là, je vous cite, hein, et vous démontrez ça avec cet avion qui part de LA au crépuscule, qui traverse une Amérique noire, endormie et inexistante pendant la nuit, qui arrive dans la lumière de New York au petit matin. Est-ce qu'il y a, comme il y a une littérature côtière, vous le dites, est-ce qu'il y a un humour côtier, un humour de LA, un humour de New York, qui peut-être serait en opposition à un humour dont on parlait à l'instant, James Crumley, Harry Cruz?
Bonne question. Je ne sais pas si je peux répondre. Ça me fait penser à Brad Easton Ellis qui écrit sur les deux côtes. Et est-ce qu'il est plutôt californien ou est-ce qu'il est plutôt new-yorkais? Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec... je ne sais pas, j'ai du mal. Parce que quand même, les médias sont nationaux. Donc après, ça crée une culture nationale. Aussi, on n'a pas parlé du sport. Et je trouve que n'importe quelle discussion sur les États-Unis, ça, c'est un élément que les Français, ils ont tendance à sous-estimer l'importance du sport. Les Américains, il y avait le correspondant de New York à Paris il y a 15 ans ou 20 ans, Adam Gapnick, qui a défini la différence entre un intellectuel français et un intellectuel américain. C'est l'intellectuel américain, il s'intéresse au sport. Et les Américains sont vraiment obsédés par ça. Donc, et ça, c'est un discours qui, même sur les deux côtes, on a tendance à parler du sport, utiliser des métaphores pour le sport.
Alors ça, moi, j'avais prévu aucune question sur le sport, je l'avoue humblement. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans la traduction, cette question du sport qui relie un peu les...
Une des façons que j'ai de prendre cette question, c'est que moi, je suis absolument fan transi de Philip Roth, mais le livre que j'ai pas pu lire et j'ai réessayé, c'est le livre sur le baseball, The Great American Novel, le livre sur le baseball. Là, pour le coup, il y a une sorte de voile hermétique que j'arrive pas à traverser, et je comprends pas suffisamment les références, les jeux, et ça me tombe des mains.
Moi, j'ai ce problème déjà avec le sport en France, alors pour le sport aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin bon,
c'est un roman très ambitieux. C'était sa tentative d'écrire un roman moderniste. Il a échoué, mais C'est très intéressant quand même. Mais oui, c'est lisible, même pour moi. Mais d'ailleurs, je n'aime pas le baseball. Il n'y a que le foot américain que j'aime. Donc,
On parlait de parodie hein, avec cette lecture que vous avez fait, Nicolas Richard, au début de la rencontre. Et vous écrivez dans Corpus Roti 1 et 2 que l'œuvre de Philippe Roth est une parodie du Nouveau Testament. Je vous cite, « Si Jésus de Nazareth descend de la lignée du roi David, Portnoy, donc l'héros de Portnoy et son complexe, appartient à celle d'Einstein, le juif le plus parfait du XXe siècle. » Déjà, ça, c'est une réflexion que je trouve hilarante. Mais derrière, vous dites quelque chose d'assez aussi incroyable. Expliquez-nous cette question de parodie.
Mais déjà, Roth, il n'était pas d'accord avec moi. Je l'ai rencontré deux fois très brièvement. La deuxième fois, c'était pour ses 80 ans. Il a fait une grande fête à Newark, à la bibliothèque municipale. D'abord, il y avait un colloque pendant deux jours avec les universitaires. Il n'était pas là. Après, on était 250 personnes. On a fait la coupe. Lui serrait la main quand c'était mon tour. J'ai dit « Hi, I'm Stephen Sampson from Paris ». Il a répondu dans un mélange d'anglais et yiddish. Il a dit « Ah, you're the guy who's been hacking my chinic. » C'est toi le type qui n'arrête pas de me chercher. C'est bien la traduction. C'est toi le type qui me casse les pieds. Et donc, oui, je suis la seule personne au monde qui dit que c'est une parodie du Nouveau Testament. Donc, c'est une lecture très personnelle. Mon ex-directrice de thèse, Rachel Hertel, lorsqu'elle a lu mon essai, elle a dit « Mais c'est de la fiction. » Mais,
c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Moi, Philippe Roth. Hein, c'est
mais après, le livre même, c'est une démonstration de cette hypothèse. Donc, je ne sais pas comment répondre. Mais oui, je pense que, disons que c'est très subversif de se moquer du Nouveau Testament. Et Roth, c'était quelqu'un de très subversif. Donc, une parodie, il y a toujours une part d'hommage dans une parodie. Mm. Non?
Il y a aussi la question de l'ironie qui est soulevée par cette chose-là. L'ironie, on en parlait avant le débat, hein, Nicolas Richard, qui irrigue complètement ces romans américains qui nous font rire. C'est-à-dire qu'on est parfois on est capable de citer des situations qui nous ont fait rire de romans, mais parfois aussi on se souvient d'avoir ri beaucoup en lisant Philippe Roth ou d'avoir ri beaucoup en lisant Woody Allen ou autre, mais on se souvient pas d'une blague ou d'un mot ou d'une phrase, on se souvient d'une impression. Et ça, j'imagine que c'est difficile à traduire, cette ironie américaine. Ou est-ce que c'est seulement moi qui perçois ça comme ça et vous trouvez que c'est beaucoup plus simple que je ne le dis?
En fait, pour moi, la question, c'est difficile de traduire, mais je ne suis pas sûr que ce soit plus difficile de traduire l'ironie en livre. Après, je ne sais pas si c'est pour du sous-titrage, par exemple.
Parce que vous faites aussi du sous-titrage, non?
Non, non.
D'accord.
Ou j'en ai fait une fois.
Oui, vous en avez fait, je l'ai vu quand même, je ne veux pas vous contredire.
Mais ce n'est pas ce que je disais, c'est une exception.
C'était Inglourious Basterds.
Voilà, c'est ça. Ouais. Non, du coup, moi je suis face à un livre, face à un texte, et j'essaye de le rendre. Si c'est amusant, j'essaye que ça marche, à peu près. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une spécificité. Parce qu'inversement, la question, ce serait est-ce que c'est plus difficile de traduire la tristesse ou est-ce que c'est plus difficile de traduire la morgue? J'en sais rien, en fait.
Parce que l'ironie repose aussi sur une partie de non-texte, c'est-à-dire sur une partie de situation, d'environnement, et ça, il faut être capable de le recréer ou d'y renoncer. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en début d'entretien. C'est même plus une question, là.
On opine du chef.
Ouais. Non, mais l'idée n'est pas que je livre mes analyses qui sont bien faibles par rapport à ce que vous avez à dire. Sur l'ironie, Stephen Sampson, il y a la question peut-être de la perception qu'on a aussi. Vous dites qu'en 2005, le magazine Lire a élu Lunar Park de Bret Easton Ellis, meilleur roman de 2005, en disant il est ironique puisqu'il fait des personnages complètement superficiels et creux pour moquer l'Amérique contemporaine. Et vous dites oui, mais attendez, parce que Bret Easton Ellis, il a dit maintenant tout se passe à LA, plus rien ne se passe à New York c'est so old et c'est complètement ringard, et vous dites qu'est-ce qu'il y a de plus superficiel que ça, et en fait vous nous dites mais ce qu'on perçoit pour l'ironie américaine parfois c'est du premier degré aussi.
C'est ça, je trouve que les Français ils ont tendance à surestimer les Américains. Non, mais ils n'arrivent pas à croire qu'on est vrai con à ce point là je trouve, mais Bret Easton Ellis, c'est compliqué, je ne sais pas. Ça me fait penser à Andy Warhol aussi, parce qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était un génie. Il est peut-être un génie dans son expression artistique, mais après, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Il y avait cette formule célèbre de Truman Capote par rapport à Andy Warhol. Il disait, c'est un sphinx sans secret. Donc,
c'est pas gentil.
Donc c'est peut-être ça. Et Brady Stenhouse, parfois, je pense qu'il y a une sorte de génie chez Brady Stenhouse, mais c'est peut-être un génie inconscient. Je ne sais pas si c'est lui-même ce qu'il fait.
Vous avez perçu ça chez certains auteurs américains, Nicolas Richard ? Il faut être américain pour se permettre de dire ça, peut-être.
Hein. Non, mais si je vais faire une liste des 100 auteurs américains qui me font rire, Bret Easton Ellis, on ne serait pas. Quoi. On peut en discuter longuement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une ironie.
Mais c'est sûr que moi, Mank Zero m'a extrêmement déprimé. Hein. Et pourtant, mais c'est vrai qu'on considère, en fait, on ne considère pas qu'il est drôle, mais on considère qu'il est ironique et qu'il se moque en permanence de la société américaine. Mais peut-être que c'est nous, Français, qui, en lisant, nous moquons de la société américaine, alors d'un Américain qui, lui...
Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman, Mank Zero, mais c'est un roman sans affect. Mais chaque fois que tu es en face de quelqu'un, que ce soit un texte ou même en vrai, sans affect, selon le contexte, ça peut faire très drôle. Hein, c'est...
Oui, une petite lecture de Nicolas Richard. C'est vous qui avez sélectionné les extraits.
Donc, on en parle depuis une demi-heure.
Voilà.
Nous y voilà. Donc, je vous lis le tout début de Slumberland de Paul Beatty. Oups. Il n'y a aucun commentaire à faire.
Ah ben, alors, je me tairai.
Non, de ma part. On pourrait penser qu'ils se sont habitués à moi, depuis le temps. Je veux dire, ils ne savent donc pas qu'au bout de 1400 ans, la comédie de l'identité noire est terminée, que nous autres, blacks, nous, naguère éternellement dans le coup, le peuple de l'immédiateté par excellence, véritable temps universel, sommes désormais aussi obsolètes que les outils de pierre, le vélocipède et la paille en papier, les trois roulés en un. Le noir est maintenant officiellement humain. Tout le monde le dit, y compris les Britanniques. Et si personne n'y croit vraiment, ça n'a pas d'importance. Nous sommes aussi médiocres et banals que le reste de l'espèce. Les amérantes de nos morts sont aujourd'hui libres d'être véritablement elles-mêmes sous cette patine primitive moderne. Joséphine Baker peut retirer l'os qu'elle a dans le nez et son squelette au genou cagneux retrouver ses 206 os initiaux. Le fantôme en mal d'amour de Langston Hughes peut poser son stylo à plume Mont-Blanc, un cadeau, et ouvrir grand la bouche, non pas pour réciter ses rimes populistes, mais pour lécher et sucer le membre prodigieux de quelques garnements de Harlem, pratiquer ce qui est, après tout, la vraie tradition orale. Les révolutionnaires parmi nous peuvent déposer les armes. La guerre est finie. Peu importe qui a gagné, prends ta pétoire, ton feu, ton calibre, les guns que tu as jadis brandis devant les enfants, comme ivres, genre « je vais casser du blanc », chope ses guns et mets-les sous verre, qu'ils gisent amorphes sur la feutrine rouge à côté du tromblon, de l'arquebuse portugaise et du mousquet de miliciens de la guerre d'indépendance américaine. Même parmi les plus courageux d'entre nous, le cri de guerre n'est plus « je vous reverrai en enfer », mais « je vous reverrai au tribunal ». Donc si l'histoire vous reste encore en travers de la gorge, appelez un avocat et tâchez d'obtenir une pension à titre de compensation pour l'esclavage. L'identité noire, c'est du passé. Et moi, pour ma part, je ne pourrais m'en réjouir davantage, parce que désormais, je suis libre d'aller au centre de bronzage, si j'en ai envie, et j'en ai envie.
Merci pour cette lecture. Effectivement, pas de commentaires, c'est parlant. L'une des choses dont vous avez parlé tout à l'heure, et je veux revenir sur ce terme, c'est le politiquement correct. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression, quand on pense aux États-Unis, que c'est le pays où on peut tout faire, tout dire, et en même temps, le pays où on peut rien faire, rien dire, et ça se traduit beaucoup dans l'humour. Qu'est-ce que vous en pensez, Stephen Samson?
Déjà, ça dépend de quel politiquement correct qu'on parle. C'est compliqué parce que il y a des gens qui disent que, encore, je trouve, j'ai pas les mots assez forts pour négatifs pour dire ce que je pense de Trump, mais en même temps, Trump, d'une certaine manière, il est subversif, c'est presque, il est punk. Je pense, mon fils qui vit très très anti-Trump, il dit que Trump, c'est le vrai punk aujourd'hui. Ou le star de Breaking Bad, il a dit il y a 3-4 ans, quand Trump a commencé à émerger, qu'il y avait quelque chose de rafraîchissant. On parle pas de dérapage raciste et tout le reste, mais. il y a quelque chose d'étouffant à New York aujourd'hui, aux universités. Seinfeld, Jerry Seinfeld, le comique des années 90, qui est beaucoup moins connu ici qu'aux États-Unis, mais vous connaissez Seinfeld, non? Il a dit qu'il ne peut plus faire des tournées sur les campus parce que son humour n'est plus permis aux États-Unis. Et moi, je trouve ça tragique. Donc, oui, moi, j'ai peur pour l'avenir de l'humour aux États-Unis. Et donc, du coup, en France, parce que j'ai l'impression, et ce n'est pas pour vous mépriser, je trouve que c'est les Français eux-mêmes qui se méprisent, mais tout commence aux États-Unis. Après, ça gagne la France. Les Français sont plus ou moins, excusez-moi de le dire, mais assujettis aux Américains.
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'une forme de censure oui. de la blague est en train d'arriver aussi en France en venant des États-Unis.
Oui, je trouve qu'il y a une culture de niceness aux États-Unis. Il faut que tout soit nice. C'est pour ça, entre autres, que Disney m'intéresse beaucoup parce que je suis en train d'essayer de développer une hypothèse sur l'essence de l'idéologie Disney ou de l'esthétique Disney. Il y a quelque chose autour de... Il faut qu'on soit gentil, nice. C'est une reproche qu'on fait aux États-Unis parfois. You have to be nice. Ou dans les photos, les Français, souvent dans les photos, ils ne sourient pas. Je trouve ça bien. Aux États-Unis, tu es obligé de sourire dans les photographies. Si tu n'as pas un sourire, c'est mal vu. Donc, il faut toujours être souriant, il faut toujours être nice. C'est quelque chose que j'aime en France. En France, on est libre d'être méchant. Et je trouve qu'il y a, c'est difficile d'être drôle sans être méchant. Je trouve que l'humour, il y a toujours une cible, il y a toujours un objet de cet humour. Et ce n'est pas gentil envers cette cible, quelle que soit la cible. Donc, et la disparition du droit d'être méchant, c'est inquiétant, je trouve.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est au moment où la plus mauvaise blague de l'histoire de l'Amérique s'incarne dans Donald Trump que l'humour, paradoxalement, disparaît aussi, ou une certaine forme d'humour. Ça, c'est un vrai paradoxe.
Oui, je suis d'accord. Je ne voudrais pas l'expliquer, mais je suis d'accord. Oui.
Mais, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une nécessité parfois de mettre un frein à un certain sexisme dans l'humour?
Oui, peut-être, mais il y aurait toujours des objets de... Moi, j'étais à... Je ne veux pas être trop polémique, mais j'étais à New York il y a 2 semaines et je rentre dans le Central Park et il y a une femme qui fonce sur moi sur un vélo et sur les petits chemins à Central Park, c'est interdit d'être sur un vélo. Donc, je dis comme ça à... Elle m'a dit « another white guy », encore un homme blanc. Donc, il y a une culture aujourd'hui un peu de ça. Donc, je ne sais pas, oui, je comprends. Hein. C'est vrai que les Juifs, ils font des terribles blagues sur eux-mêmes. Et si j'entends un Juif faire une blague sur les Juifs, je suis mort de rire. Mais si un non-Juif fait la même blague, je suis un peu gêné. Donc, je ne sais pas quoi dire.
On est en terrain touchy, comme on dit. Hein. Et comment vous le vivez, Nicolas Richard, ces questions-là? Et en plus, ces questions qu'on peut... On n'a pas prononcé le mot, mais post-MeToo aussi. C'est-à-dire, il y a même des comités de lecteurs qui sont en train d'être mis en place dans certaines maisons d'édition aux États-Unis qui vont censurer en disant ça, ça ne va pas, on n'y va pas. Est-ce que quand on est traducteur, il y a aussi ce réflexe-là qui arrive de se dire ça c'est casse-figure, quoi?
En fait, moi, mécaniquement, quand le livre arrive au traducteur, il a été édité. Donc, à la limite, toutes ces questions d'un brouillon un peu problématique ont été évacuées, en fait. Donc, du coup, moi, je ne suis pas vraiment... en tout cas, je ne me trouve jamais dans la position de dire « Oh là là, non, je ne pourrais pas traduire ça en français. » Enfin, là je ne dis pas que dans l'absolu, ce serait impensable, mais ça m'est pas arrivé. Je ne le vois pas arriver, quand même.
Ça va, alors?
Oui. Non, mais on parle d'espaces différents.
Oui.
Je pense que Steve faisait très clairement référence à une sorte d'autocensure de gauche qui sévit à l'université américaine dernièrement. C'est une réalité qui, par un mouvement de balancier compliqué, une sorte d'ombre projetée de la politique qui est complètement partie dans l'autre sens. Et ensuite, le terrain de l'humour doit slalomer. Et une fois de plus, le terrain du stand-up ou de la télé n'est pas tout à fait celui de la page écrite.
Oui.
Donc,
terrain du stand-up où, alors on n'est pas américain et moi je ne suis pas non plus une acharnée, mais je crois qu'il y a plus de femmes dans le stand-up américain qu'il y en a dans la littérature, en tout cas humoristique américaine. Ça, c'était un grand débat qu'on avait tout à l'heure, parce qu'on était avant, on a discuté tous les deux, et on voulait vous poser la question d'ailleurs, puisqu'on se disait des auteurs masculins américains drôles, on peut en citer une liste infinie, mais des auteurs féminin américain drôle, il y en a plein. Des auteurs, des écrivaines américaines très connues, mais on peut pas dire qu'on a un sentiment d'avoir beaucoup ri quand on se dit j'ai lu Toni Morrison ou Joyce Carol Oates ou quoi. Il y a pas, l'humour semble être quand même plutôt masculin aux États-Unis. Comment ça se fait Et contredisez-moi si on a tort, parce que si j'ai tort, parce que
moi je trouve pas la jeune génération d'auteurs américains masculins, je les trouve pas très drôles non plus. Hein. Je trouve que il y a la littérature est en train d'être éduquée aux États-Unis, surtout sur le mouvement de les écoles d'écriture créative, on a creative writing comme on dit, mais en Corse il y a cette pression d'être nice et d'avoir une sorte de psychologie à la con, donc
il y a le contre-exemple de Miranda July par exemple,
qui n'est pas hyper connu.
Oui, non, mais d'accord, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas souscrire à l'idée que l'humour serait masculin. C'est juste qu'on ne les connaît pas. Mais en tout cas, Miranda July, je trouve que c'est quelqu'un d'une finesse incroyable, qui est vraiment drôle et en plus qui est au sens littéraire, qui va dans des zones vraiment vicieuses, vraiment tordues. Et je vous invite tous à lire Miranda July si vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment une auteure formidable.
Moi, je n'ai pas aimé, mais... Ah. Mais j'ai pas vraiment essayé, il faut que je réessaye. Oui, oui, oui.
Comment ?
Elle est fine.
Les films.
Oui, voilà. Elle fait des films, pardon. Ouais. Oui, elle a fait. Oui, oui. You and me and everyone we know, je crois, quelque chose comme ça.
Ce que je voulais dire, c'était pas les hommes ont écrasé les femmes dans l'humour américain. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est tout à l'heure, vous l'avez dit et c'était très intéressant, il y a l'humour du corps aussi. Ouais. Et la sexualité masculine est un grand ressort de l'humour, je trouve. La sexualité de Philip Roth, par exemple, dont moi, Philip Roth, est aussi le reflet, est un grand ressort humoristique de ses romans.
Oui, c'est vrai. Je sais pas, peut-être qu'il y a une sorte d'autocensure chez les femmes. Je ne sais pas si c'est vrai, comme dit Nicolas, peut-être on ne les connaît pas, mais. Traditionnellement, les femmes étaient plus retenues, obligées socialement de séduire et ne pas. Il y a quelque chose d'agressif dans l'idée de faire des blagues. Peut-être, selon les anciens codes, c'était des conseils aux femmes, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi sur ça, donc c'est une question très intéressante.
Oui. Ouais, je n'y avais pas réfléchi non plus, du coup, on était dans un grand débat avant sur cette question des femmes. Il y a quand même une écrivaine dont j'aimerais parler, puisque vous avez tous les deux, vous l'avez traduite et vous l'avez interviewée pour En attendant Nadeau, c'est Valeria Luiselli. Avec l'histoire de mes cheveux, avec l'histoire de mes dents, elle joue sur l'un des ressorts les plus intéressants aussi de l'humour américain, c'est l'absurde. Oui. Pour résumer l'histoire, c'est quand même l'histoire d'un homme qui vend aux enchères ses dents après s'être fait mettre la dentition de Marilyn Monroe, et puis qui va être ensuite acheté entièrement par son fils, mais il va être séquestré par un clown dépressif, etc. Enfin, c'est toute une somme de petites scénettes comme ça, absurdes, qui s'enchaînent et qui sont très drôles. Déjà, c'est un texte qui est intéressant du point de vue de la traduction, parce qu'il a d'abord été écrit en espagnol, elle est mexicaine, il se passe au Mexique, ensuite, il est traduit en anglais,
par elle-même,
et en duo, je crois, avec une traductrice. Et puis traduit ensuite en français par vous. Comment s'est passée cette traduction ? Comment vous avez travaillé avec elle ?
Alors, c'est l'auteur qui estimait que pour les autres traductions, elle préférait qu'on parte de l'anglais. Elle a participé activement à la traduction, mais c'est pas elle qui l'a traduite. Mais elles ont beaucoup travaillé ensemble et elle estimait que le texte anglais était plus abouti et correspondait plus, comme ça arrive inévitablement. Je sais pas si c'est le cas.
Elle a rajouté un chapitre en anglais.
La traductrice en plus a rajouté un chapitre et elle invitait aussi les traducteurs des autres langues à intervenir dans une sorte de projet un peu interactif. Et bref, elle considérait que la version anglaise était la base sur laquelle elle voulait que les gens travaillent.
Mais dans ce roman, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, c'est presque en grande partie, c'est une œuvre de journalisme parce qu'elle est partie à une usine où elle a interviewé des ouvriers. Après, elle a enregistré ce qu'eux, ils avaient dit. Après, elle a fait entendre les enregistrements. Eux, ils ont réagi. Donc, c'était une partie, une œuvre écrite par les ouvriers qu'elle avait interviewés.
Et dont elle fait cette chose complètement, cet objet complètement délirant en même temps. J'avais lu ça, cette explication-là dans votre entretien qui est passionnant puisque justement, elle part de quelque chose de concret et elle va dans quelque chose d'absurde en même temps qui nous parle énormément aussi à nous. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait un génie de l'absurde qui, pour moi, mais humblement, semble irriguer aussi beaucoup l'humour américain.
Intéressant. Je ne sais pas. Peut-être, elle est quand même, elle a grandi au Mexique, donc elle est beaucoup plus mexicaine, même s'il habite à New York aujourd'hui. Donc, c'est un compliment que tu fais, que vous faites pour nous, les Américains, mais je pense que c'est drôle et c'est grâce aux Mexicains plutôt.
Non, mais là, en plus, dans le cas de Valeria Luiselli, maintenant, il me semble que depuis de nombreuses années, elle est new-yorkaise.
Oui.
Et en fait, elle a grandi à Singapour, en
elle
Corée,
a un aspect
en
très
Inde.
Multiculturel.
Donc, c'est la new-yorkaise typique, quoi. Elle a vraiment, en un sens, dans la mesure où elle a beaucoup voyagé, et elle a cette terre d'accueil qui lui permet de travailler et d'écrire.
Ouais, oui, mais quand même, ses deux parents sont mexicains, et elle a beaucoup plus vécu au Mexique qu'aux États-Unis, je crois. Hein.
Ouais. Ouais.
Pour rebondir sur cette question du multiculturalisme et pour revenir à ce dialogue intéressant et drôle entre vos deux personnages, le père très franco-français et l'américain mal vu au début de Moi, Philippe Roth, il dit oui, mais attendez, parce que la culture américaine, ok, c'est peut-être pas la culture française avec le Louvre et compagnie et Napoléon, mais en attendant, nous, ça marche, on a du monde. Ça aussi, c'est une question de le sacré qui peut-être empêche un peu le rire en France et qui n'existe pas aux États-Unis où le rire est plus spontané. Rapport à la culture, hein, vraiment.
On peut rire de la culture aux États-Unis peut-être plus, oui, c'est vrai, mais c'est peut-être pas une bonne chose, je ne sais pas. j'admire beaucoup ce respect qu'ont les Français pour la culture.
Donc en fait, c'est Jesse qui aurait tort et le papa de Marie qui aurait raison, j'ai du mal à le croire.
Mais je pense qu'il est sur la défensive. Comme moi, je pourrais l'être. Hein. Je pense que c'est. Est-ce qu'ils pensent vraiment que Disneyland c'est une bonne chose ou c'est juste qu'ils se sentent obligés de défendre son pays en face de cette hostilité? Parfois, on se retrouve dans nos retranchements. Parfois, je me sens un peu agressé. Quelqu'un me voit dans un taxi. Et par exemple, j'ai vu un stand-up à New York. Il y avait une comédienne d'ailleurs afro-américaine qui faisait du stand-up, et elle a dit qu'elle a raconté un incident, elle est en France, en Belgique, et le chauffeur de taxi commence tout de suite avec Trump, elle se sentait agressée, elle n'aime pas Trump du tout, mais elle a dit, « Merde, tu dis, oui, qu'est-ce que tu veux ? Oui, c'est un con, mais c'est un pays des cons, donc c'est normal. » Et moi aussi, parfois, j'ai presque envie de défendre Trump, juste parce qu'on m'attaque tout de suite sur Trump, j'y suis pour rien, mais j'ai pas envie de... d'être obligé de défendre, quoi. Je ne suis pas ambassadeur des États-Unis, donc c'est un peu ça pour Jesse, je crois.
C'est intéressant, c'est juste une réflexion qui me traverse l'esprit maintenant. Vous disiez que l'humour est en train de déserter la littérature, que les ateliers de creative writing ont sclérosé un peu, peut-être, la littérature américaine.
Oui, je pense même, le problème principal, c'est peut-être même pas l'humour, mais oui, je suis contre toutes ces écoles d'écriture créative. Oui.
Et on parle de stand-up depuis tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que finalement... l'humour, l'impertinence et le politiquement incorrect, ce ne serait pas déplacé pour déserter la littérature et aller du côté du stand-up, de l'immédiateté, de cette autre société du spectacle qui n'est plus du tout littéraire aux États-Unis?
Moi, je ne connais pas assez bien le monde du stand-up pour dire. Moi, j'ai trouvé ça moyen, mais bon, il faudrait comparer ça il y a 30 ans, 40 ans. Je ne sais pas, tu avais Lenny Bruce, tu avais... Après, tu avais Seinfeld. Quelle est la scène aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a Louis C.K. qui a été viré de la scène. Je trouve ça dommage. Mais,
Louis C.K. qui a été viré de la scène parce que lui, il faisait des sketchs très drôles sur ce que c'est que la virilité et ce que c'est d'être face aux femmes et qui était assez apprécié des féministes, hein, d'ailleurs, et qui, en fait, s'est fait dégager de ses projets avec Netflix, etc., parce qu'il il s'était masturbé devant des femmes qui avaient porté plainte.
Oui.
Et, bon,
oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire? Je ne sais pas.
En plus, je suis homme, donc c'est plutôt... Si quelqu'un peut le pardonner, il faudrait que ça soit une femme qui le pardonne. On n'est pas là aujourd'hui. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait, mais après... Woody Allen, son film a été financé et Amazon a refusé de diffuser son film. Et finalement, son film a été diffusé en France. Il n'est toujours pas diffusé aux États-Unis. Et maintenant, il tourne uniquement en Europe. Donc, j'ai cité une conversation à New York. Il y avait des Français et des Américains à table. Et plutôt des gens de gauche, et les Français défendaient le fait que Woody Allen était distribué dans leur pays, ils étaient fiers, et les Américains, ils avaient l'air un peu surpris que ce n'était pas le cas aux États-Unis. Donc, on n'a pas pour l'instant la même sensibilité en France qu'aux États-Unis. Moi, je me retrouve plus dans la sensibilité française sur cette question.
Je crois qu'en termes de timing, on n'est plus du tout dans les clous. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Nicolas Richard ou Steven Sampson quand même, puisque vu qu'on a dépassé les temps, je sais pas. Oui. Alors, le micro... je vais vous faire passer le micro sans fil. Ah bah, merci. Voilà.
Oui, vous disiez que vous préfériez... Alors, vous vous êtes auto-traduit. Vous préférez votre roman en français. J'aimerais bien savoir pourquoi, en fait. Pourquoi vous préférez...
Mais... Moi, je préfère la langue française. Je trouve la langue française plus belle. Je trouve qu'il y a quelque chose de plat dans l'américain. J'ai un refus de ma propre langue. Et sinon, j'aime beaucoup l'anglais britannique. Je serais très élégant alors que je suis l'américain. Vulgaire. Mon propre accent, je ne supporte pas. Mais...
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Moi, j'ai une petite question sur la traduction que vous avez lue, où vous employez, du coup, dans la traduction française, des mots en anglais. On a « black », même s'il y a « noir » à côté. Ouais. Est-ce qu'il y a deux mots dans le texte anglais? Et puis, vous faites le choix de dire « gun ». Pourquoi et à quoi ça renvoie dans...
En fait, il y avait une série de pseudo-synonymes, et j'ai essayé de maintenir la variété.
Mais ça, c'est... Je me permets de poursuivre cette réflexion-là sur le Valeria Luiselli, donc le roman L'histoire de mes dents, dans lequel vous avez relevé l'utilisation du mot relingos en espagnol, qui doit être le même en anglais. Et comme vous l'abordiez dans cette interview que vous avez faite de la romancière, j'ai cherché relingos dans la version française et je ne l'ai pas trouvé, mais à la place j'ai trouvé no man's land, puisque ça traduit les terrains vagues, et j'ai trouvé no man's land. Donc je me suis dit, en fait, je pense que je vous l'ai dit avant et vous ne vous souveniez plus, donc je spoil un peu, voilà, il n'y a pas de réponse du traducteur, mais je pense que vous avez traduit un terme espagnol par un terme anglais dans une version française.
Alors dans ce cas-là, je sais qu'il y a eu des discussions avec l'auteur. Et c'est ce que j'essaie de faire le plus systématiquement possible quand il y a des questions un peu épineuses, parce que là effectivement c'est un terme qui avait rebondi, qui avait ricoché déjà sur deux langues, et en plus Valeria Luiselli parle pas mal français du tout, donc voilà, je l'ai soumis. Donc je me souviens plus exactement s'il apparaît pas ou pourquoi il apparaît pas, ce terme.
Mais il apparaît pas, c'est suite à une discussion avec elle. J'ai fait une recherche, mais il y a terrain vague, espace vide et no man's land. Donc je pense que vous l'avez décliné en trois, sous trois formes. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme stratégie de traduction.
Surtout si j'ai la bénédiction de l'auteur.
C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui ?
Alors, je ne me souviens plus dans quel roman de Paul Beatty c'est cette scène, mais pour moi, elle définit bien ce qui est devenu l'humour maintenant. Vous parliez des humours communautaires, des humours de communauté. En fait, on ne peut plus rire que de soi-même. Et il y a une scène où il y a un comédien de stand-up noir, et dans la salle, il y a des Blancs. Et il fait une blague, et les Blancs rient. Et ça calme tout le monde. Plus personne n'a envie de rire, du coup, parce que les Blancs rient à la blague du noir. Et Paul le dénonce, ça, dans son livre, je ne sais plus lequel c'est terrible. Mais... Et je crois que ça résume très bien ce qu'est devenu l'humour maintenant, c'est-à-dire qu'une femme peut faire de l'humour sur les femmes, mais les hommes n'ont pas le droit d'en rire. Un noir peut faire de l'humour sur les noirs, mais si un blanc en rit, ça va être mal pris. Et voilà, c'est un peu, et c'est ce qui est venu des États-Unis, et c'est vrai qu'on commence à le voir en France, et moi aussi, ça me désole un petit peu.
Donc en fait, il y a une autocensure même, pas seulement de celui qui fait la blague, mais celui qui reçoit, donc le lecteur ou le spectateur dans ce cas-là.
Et j'avais parlé, j'ai aussi traduit Paul Beatty, et j'ai parlé avec lui de pas mal de problèmes, et sur l'autocensure des traducteurs, il m'a raconté qu'il avait un traducteur en Allemagne qui n'arrivait pas à traduire, je ne sais pas ce que c'est le mot en allemand, mais nigger, tel quel. Il n'y arrivait pas. Et Paul lui disait, mais si, il était blanc, lui. Et c'est vrai que c'est un mot, c'est compliqué. C'est compliqué pour les blancs de le prononcer, mais quand on est traducteur d'un noir, et que le noir l'a mis, et ben, il faut le mettre, ce mot, et il faut se faire violence et le mettre. Et Paul a été obligé de le convaincre pour qu'il le mette dans le livre. Quoi. Donc c'est... Voilà.
Bon, on n'aura pas le temps pour d'autres remarques, mais en tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux, Stephen Sampson et Nicolas Richard, pour vos participations. Merci pour votre écoute.